C'est une nouveauté Radio Chablais.
Chablais, une heure. Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
C'est chaud.
Sur le grill.
L'espace Graffenried à Aigle propose deux expositions. Lovely Chablais, l'émergence du tourisme à travers l'art, c'est jusqu'en septembre. Et When the Flowers Bloom de Tracy Lim, ça c'est jusqu'au 9 juin prochain. Il faut se dépêcher d'aller en profiter. Tracy Lim, bonjour.
Bonjour.
D'où est-ce que vous venez?
Je viens des États-Unis, mais origine c'est Corée du Sud.
Tracy Lim, il fit parler des matériaux, des matières qui ont été utilisées. Il y a du papier spécial, expliquez-nous.
C'est un peu spécial papier à Corée du Sud. Il s'appelle Hanji. Et c'est un spécial matériel qui vient en Corée.
Qui est fait à base de quoi?
C'est à base de l'arbre.
Chloé Cordonnier, responsable ici de l'espace Graffenried, bonjour.
Bonjour Cyril.
Juste pour compléter, donc justement les matières utilisées sont très importantes aussi dans la démarche artistique de Tracy Lim.
Oui, tout à fait. Il s'agit de feuilles de riz en fait, pour résumer. Donc le papier de riz qu'elle appelle Hanji. En fait, c'est la feuille de riz qui vient de Corée du Sud et qui est appliquée directement sur la toile avec un processus de séchage à l'air spécial qui prend plusieurs jours. Donc c'est vraiment un travail qui prend du temps, qui demande de la patience, de la contemplation aussi. Et ensuite, Tracy vient appliquer ses couleurs, ses pigments naturels, donc ses fleurs en fait, sur la toile qui a séché. Et au préalable, elle dessine les contours des fleurs à l'encre de Chine.
C'est très important, Tracy Lim, parce que justement, il y a toute une démarche artistique pour prendre le temps. Et on prend le temps, ça nous rappelle peut-être, nous, petits Européens qui ne connaissons peut-être pas assez bien l'Asie, mais certaines cérémonies, certains processus où justement il faut prendre le temps et la contemplation est importante.
C'est tous les deux. C'est comme en méditation avec le temps. On attend et pense dans la tête. Et après, on fait la procédure avec la nature, avec le vent, et aussi pour sécher le papier et tout ça.
Toute une procédure artistique qui permet justement de prendre le temps de réfléchir. Donc quand on vient admirer votre art, on peut méditer devant vos fleurs. Et c'est le but, c'est de pousser à une certaine réflexion, à une certaine méditation.
Oui, c'est comme une méditation. Ça dépend des personnes, mais je crois que c'est possible de réfléchir quand vous voyez les peintures. Et peut-être c'est possible de reposer pour voir mon peinture et faire la méditation.
Merci Tracy Lim. Chloé Cordonnier, justement, encore un petit mot là-dessus. Vous, quel effet ça vous fait quand vous vous retrouvez devant les œuvres de Tracy Lim?
Ah, c'est une bonne question ça. Mais je trouve que cette exposition est parfaite pour le printemps, justement, parce qu'on a ces couleurs très fraîches, très vives et douces à la fois. Donc de prime abord, on entre dans la salle et on est envahi par toutes ces couleurs qui sont réconfortantes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une certaine nostalgie. Bon, peut-être que je suis biaisée parce que je connais un peu la démarche, les propos de l'artiste, mais elle parle d'une certaine nostalgie pour son pays d'origine qu'on retrouve dans ses tableaux, notamment parce qu'elle représente la fleur cosmos qu'on trouve notamment en Corée du Sud. Donc un mélange de sentiments, de sensations, mais beaucoup de douceur. Et c'est vrai qu'on a envie de prendre le temps d'observer chacune de ces couleurs et d'observer aussi la nature quand on sort de l'espace Graffenried et ce beau printemps qui nous attend.
Donc ça pousse à la contemplation dans l'exposition et à l'extérieur de l'exposition.
Oui, je crois qu'on peut dire ça.
Merci beaucoup. Merci Tracy Lim.
Merci.
When the Flowers Bloom, l'exposition de Tracy Lim, c'est à l'espace Graffenried à Aigle jusqu'au 8 juin prochain.
C'est chaud.
Sur le grill. Oh,
Radio Chablais, programme de nuit. Oh.
Sur le grill.
On refait un tour dans le monde de Tracy Lim, l'artiste coréenne, et surtout dans le monde de l'espace Graffenried et tout ce que ça propose. Chloé Cordonnier rappelait aussi qu'il y a un atelier créatif pour les enfants de 6 à 12 ans, samedi 1er juin à 14h. C'est gratuit, mais sur inscription. À la découverte de l'art coréen en présence de l'artiste, ça, c'est un moment d'exception.
Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose de spécial. On n'a pas fait ça jusqu'à maintenant. Donc là, on a la chance d'avoir Tracy Lim qui sera présente samedi 1er juin à 14h pour apprendre un peu aux enfants chablaisiens et chablaisiennes, parce que là, c'est hors classe. Donc, c'est un samedi. De leur apprendre l'art coréen, mais une technique bien particulière, celle de la feuille de riz hanji. Et puis, on a la chance aussi, Tracy Lim est sponsorisée en partie par un monsieur qui s'appelle Monsieur Choi, qui habite dans la région de Jeolla, en Corée du Sud, et qui a justement une entreprise, un atelier de feuilles de riz hanji. Il est considéré lui-même comme faisant partie du patrimoine immatériel de Corée du Sud. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant, et on est très 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 heureux de pouvoir proposer ce papier qui vient directement de Corée du Sud aux enfants pour l'atelier, et d'avoir toute l'expertise et la bienveillance de l'artiste aussi pour ces 2 heures d'atelier samedi 1er juin. Sur inscription, les places sont limitées, ça se remplit déjà très vite, on n'aura pas plus que 15 places, donc on vous conseille de vous inscrire par email très rapidement, c'est gratuit.
Tracy Lim, vous voulez juste remercier aussi une fondation très importante pour vous, quelle fondation?
C'est la fondation Omer.
Alors la fondation Omer, il y a un lien très important aussi avec le cordonnier, parce que Tracy Lim va quand même grimper en prestige cette année grâce à Christie's.
Oui, c'est vrai que cet été, Tracy Lim participe à une vente aux enchères à Londres avec Christie's. Donc elle aura l'occasion de vendre les œuvres qui sont dans l'exposition When the Flowers Bloom à l'espace Graffenried cet été avec Christie's. Et la fondation Omer, qui est une fondation humanitaire pour la recherche dans le domaine de la santé, la sponsorise dans ce cadre.
Moment d'anthologie prévu par l'espace Graffenried, cet atelier créatif pour les enfants, la découverte de l'art coréen en présence de Tracy Lim, l'artiste, samedi 1er juin. Et l'exposition de Tracy Lim, c'est jusqu'au 8 juin, on vous le rappelle, dépêchez-vous d'aller regarder ça.
C'est chaud.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. On se trouve devant la salle polyvalente de Dorena. Dorène, pour les intimes. À l'intérieur, il y a des enfants qui font leur cours de gym, qui ont l'air de s'éclater, tant mieux pour eux. Ma très chère guide Yasmine, il est venu l'heure de nous quitter, mais avant quand même, je voulais savoir, dans ton petit cœur à toi, qu'est-ce que ça te fait ? Pourquoi Doren, c'est effectivement l'ombril du monde ?
Alors déjà, pour une petite astuce culinaire, pour la tarte au pruneau.
Arrête.
Ouais. Si on regarde les photos des années 60, il y avait plein de pruniers partout qui ont un petit peu disparu, mais mes grands-parents avaient des pruniers. Et vraiment, il y a des endroits, des villages, on les connaît pour les poireaux et d'autres. Et nous, c'est la tarte au pruneau qui était un peu l'emblème culinaire de Doréna. Et là, peut-être, je lance un petit appel, un petit défi, que ce soit la commission Aînés, Jeunesse et Culture ou la Société de Développement. Peut-être une fois, on préfère la fête du pruneau ou un concours de la meilleure tarte au pruneau, ça pourrait être pas mal.
Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Le message est lancé.
Voilà, et puis sinon, Doréna, mon coup de cœur, j'ai grandi ici. J'ai vu le village doubler d'habitants. Et puis, moi, je suis impressionnée quand je regarde, c'est la quantité de sociétés locales qu'on a. On parle toujours de manger local, voilà. Et moi, je dis, il faut vivre local parce que il y a tellement de choses à faire à Doréna. On a, comme beaucoup de villages, une société de chant, une société de fanfare. Mais à part ça, si on est sportif, on peut faire l'aïkido, du tennis de table, le street hockey, qui est bien connu ici, la gym. On a une cabane au sommet de la montagne. On peut faire du ski, du tir au pigeon. On a les chasseurs qui se regroupent, les aînés qui ont leur propre club, la jeunesse maintenant de Doréna, les ados qui se mettent ensemble, je trouve ça super chouette. Les modélistes aussi qui font voler une fois par semaine leur machine, c'est assez beau à voir aussi. Les tracteurs tondeuses, comme on discutait tout à l'heure.
Oui, on est dans la capsule précédente, le championnat des tracteurs tondeuses.
Voilà, on a des ateliers créatifs, la maison des contes et légendes. Donc il y a plein de choses, je pense que c'est... on doit trouver son bonheur à Doréna parmi toute cette foule d'activités. Et puis j'espère que les gens ils vont trouver leur bonheur et puis qu'on va rester un village où il fait bon vivre, même s'il y a un tout petit peu de vent ce matin.
Moi j'adore aussi la tarte au pruneau, mais attention, notre poisson faux, si vous savez pourquoi.
Radio Chablais,
le nombril du monde. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais.
Alors, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, aujourd'hui, on s'attaque à la question existentielle qui mérite réponse. Pourquoi fait-on des cauchemars? Je suis sûre que, comme moi, les cauchemars ont traumatisé votre enfance et si vous auriez pu faire ça sans, ça aurait changé vos nuits pour le meilleur. Alors, pourquoi on n'a toujours pas trouvé le moyen de les éradiquer? J'ai creusé le sujet et il s'avère que c'est complètement normal et apparemment même healthy d'avoir des cauchemars, enfin de faire des cauchemars au moins une fois par mois. Bon, sur ça, j'ai des doutes, mais ma foi, c'est ce qui est écrit sur Internet, donc ça doit être vrai. En fait, quand on dort, les rêves permettent de réguler les émotions et les événements de la journée, ce qu'on a ressenti, la joie, la peur, le stress, etc. Et les cauchemars, eux, ce sont des échecs du processus de régulation des émotions pendant le sommeil. Alors, en gros, ça veut dire que le cerveau déconne, et c'est un bug dans le système. Alors, même si les cauchemars arrivent en fin de cycle du sommeil, dans la phase de ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, ça peut nous prendre une demi-heure, voire beaucoup plus, pour nous rendormir parce que notre cœur bat super vite et notre cerveau est lancé à pleine vitesse. Alors, le mieux dans ce cas, pour l'avoir vécu beaucoup de fois, c'est d'allumer la lumière, histoire de se reconnecter avec la réalité, de sortir de son mauvais rêve. Et puis, ma foi, si vous dormez à côté de quelqu'un, on dit bien que la misère, ça se partage. Et pour aider votre cœur à retrouver un rythme cardiaque plus doux, les exercices de coordination respiratoire sont juste fabuleux. Je vous les recommande. Il y a un autre truc aussi complètement effrayant dans le monde des cauchemars, ce sont les paralysies du sommeil. Alors pour ceux et celles qui sont assez chanceux de pas savoir ce que c'est en fait une sensation désagréable où on a l'impression d'être réveillé et qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dans notre chambre qui nous veut du mal. On peut pas bouger, on peut pas crier ou appeler à l'aide, on n'est plus maître de notre corps. Bref, alors non, c'est pas un scénario de film d'horreur. quoique. En fait, c'est juste notre cerveau qui tourne à plein régime alors que notre corps, lui, il est complètement endormi. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut plus bouger et puis qu'on peut pas crier. En fait, on est pile poil entre le mauvais rêve et la réalité. Et j'ai découvert à travers ma petite expérience personnelle dans le domaine que les cauchemars arrivaient à chaque fois que je mangeais trop ou trop gras, ou alors ils arrivent quand je suis dans un état de fatigue extrême. Donc, le mieux, c'est de se coucher tôt, de manger léger, d'éviter tous les films d'horreur avant d'aller au lit et d'éviter tout ce qui peut vous procurer des émotions fortes ou négatives, comme par exemple répondre aux emails ou faire ses impôts pour les retardataires ou encore faire son ménage. Voilà, voilà.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La question...
Pardon?
Tu dis quoi?
Sur Radio Chablais.
Alors, comme on est dans le thème du sommeil aujourd'hui, j'ai voulu m'attarder sur une expression idiomatique qui m'a toujours interpellée. C'est dormir sur ses deux oreilles. Ce qui veut dire dormir profondément, de manière sereine et tranquille, sans se soucier de rien. Et ça m'a toujours fait sourire parce que, on est d'accord, techniquement, c'est impossible de dormir sur ses deux oreilles. N'est-ce pas? À moins qu'on n'ait pas eu de chance à la naissance et puis qu'on a des oreilles vraiment très grandes et qui, du coup, quand on dort, se calent sous notre tête. Enfin bref. Alors, d'où vient cette expression? De ce que j'ai pu trouver comme info, cette expression, elle date du 19e siècle et ce serait initialement dormir sur les deux oreilles. Elle trouve son origine dans un dicton latin dont je ne vais pas vous faire l'offense de citer. Je vais plutôt me contenter de la traduire, ce qui donne dormir sur l'une ou l'autre oreille. Et donc, si on fait un raccourci, l'une ou l'autre oreille, ça équivaut à dire les deux oreilles. Et donc, ça prend son sens de dire dormir sur les deux oreilles. J'imagine qu'au fil du temps, on a voulu préciser à qui appartenaient les dites oreilles, au cas où on confondrait avec celles du voisin ou du chien. Tout ça pour dire l'expression « dormir sur ses deux oreilles », je pense très personnellement qu'elle aurait dû être suivie du mot « alternativement ».« Dormir sur ses deux oreilles, alternativement ». Voilà, voilà.
La question...
Pardon?
Tu dis quoi?
Sur Radio Chablais. Radio Chablais, programme de nuit.
Où suis?
Voici les titres du journal.
Des éducateurs sociaux en formation ont organisé mardi dernier une journée sportive placée sous le signe de l'inclusion à Aigle. Des élèves ont ainsi pu jouer à divers jeux avec d'autres enfants en situation de handicap. Une majorité populaire se décide en faveur des deux initiatives santé soumises à la votation le 9 juin, mais une division apparaît entre les régions. La Suisse romande est nettement favorable, alors que les alémaniques sont partagées, voire opposées. Le Tour du Pays de Vaud peut envisager son édition 2024 avec sérénité. Les problèmes de logement et financiers ont pu être résolus. Place au spectacle avec une étape au Longvillard.
Pour la météo, de belles éclaircies pour ce début d'après-midi avant le retour des nuages. Et pour ce week-end, il sera mitigé. On fait un point complet sur la météo à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Julie Gay. Bonjour Julie.
Bonjour Axel, bonjour à toutes et tous. Une journée sportive placée sous le signe de l'inclusion et de l'échange. Voilà le projet mené par des éducateurs sociaux en formation de l'École supérieure sociale intercantonale de Lausanne. Présent à Aigle mardi dernier, de nombreux élèves de différents établissements de la cité chablaisienne, dont des enfants en situation de handicap, ont ainsi pu se rencontrer et partager un moment particulier sous la forme de jeux sportifs. Alessandro, l'un des organisateurs, connaît bien cet univers. Il travaille à la fondation La Monresse à Aigle qui accompagne des enfants en situation de handicap et il avait déjà réalisé un événement comme celui-ci.
Moi j'avais monté il y a 6 ans en arrière des JO Interfondation dans les mêmes ordres d'idées et l'idée c'était pouvoir faire renaître ça un peu. Puis pour moi c'est aussi une manière de boucler la boucle. J'ai commencé par ce projet-là et je finis par ça. Je finis avec tous mes collègues avec qui j'ai fait mes 2 ans et on est vraiment à cœur de faire quelque chose de bien. Et je crois qu'aujourd'hui, on est plus ou moins satisfaits de ce qui est en train de se passer.
Et on voit finalement que ça se passe très bien. Il y a une espèce de cohésion. On le voit, il y a quand même de la compétition.
Ouais, alors la compétition fait partie du sport. Donc on essaie de la réduire au maximum. Mais non, pour moi, ça se passe bien. Il n'y a pas de mésentente, il n'y a pas d'engueulade. Il y a une bonne collaboration qui me surprend à des moments. Alors oui, il y a la compète. Et pour moi, ça reste bon enfant. Et ça reste quand même l'objectif de la journée.
Un sujet réalisé par Léa Journeau.
Comme disait Baudelaire, enivrez-vous.
Tel est le message de Swiss Wine Valais, la fêtière de promotion des vins et du canton à l'occasion de la sortie du millésime 2023, présentée hier à Montet. L'ivresse n'est pas l'excès, précise l'œnologue cantonal Nadine Pfenninger-Bridy. Elle souligne qu'il s'agit d'un millésime du vigneron, lié donc au travail du professionnel de la cep pour garantir des crus de qualité. Et si les étoiles du Valais ont été remportées principalement par des vignerons, les vigneronnes ont aussi leur place, selon Nadine Pfenninger-Bridy.
Je crois que c'est vraiment un métier qui se féminise beaucoup. Il y a passablement de femmes aujourd'hui dans le métier, qui sont dans la lumière aussi. Alors c'est un petit peu le hasard des choses qui fait qu'aujourd'hui, il y avait peut-être beaucoup d'hommes qui sont venus présenter les vins. Mais c'est un métier où la femme, de plus en plus, a sa place et une jolie place.
Des propos recueillis par Valérie Favre. Il sera possible de les déguster lors des caves ouvertes valaisannes du 9 au 11 mai. Une dizaine d'étudiants pro-palestiniens ont passé la nuit dans un bâtiment de l'université de Lausanne. L'occupation continue actuellement de se dérouler pacifiquement. Ces étudiants réclament notamment un boycott académique des institutions israéliennes ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat sur les territoires palestiniens. Ils se sont engagés à ne pas perturber les cours et les activités de recherche. De son côté, l'UNIL a promis de ne pas prendre de sanctions académiques. Il y aura du suspense le 9 juin prochain lors du deuxième dimanche de votation fédérale de l'année. En particulier autour de l'initiative qui veut plafonner à 10% du revenu les primes de l'assurance maladie. Le premier sondage effectué il y a un peu plus de 6 semaines du scrutin donne le oui gagnant à 56%. L'autre initiative qui entend mettre un frein au coût de la santé est elle aussi soutenue par une majorité de 52%, mais cela risque de ne pas suffire. Le résultat est par contre acquis pour les deux autres objets. Ce sera oui à la loi sur l'approvisionnement en électricité et non à l'initiative pour l'intégrité physique. L'analyse de notre correspondant parlementaire Serge Hubin.
Le soutien d'une majorité d'une UDC divisée à l'initiative des antivax et son rejet, tout aussi partagé, de la loi sur les énergies renouvelables n'auront aucun effet. Le oui au Mantelerlas électrique et le rejet de l'initiative pour l'intégrité physique, tous deux à 70% et plus dans le premier sondage GFS Bern, tous deux sont donc acquis. C'est autrement plus incertain pour les initiatives en lien avec les coûts de la santé et surtout celle du PS pour plafonner à 10% du revenu la charge des primes maladie. À 6 semaines du scrutin, avec un stade de formation de l'opinion avancé, c'est 56% de oui contre 40% de non et seulement 4% d'indécis. Avec un Rüschtigraben, le oui dépasse les 70% en Suisse romande et au Tessin. Il est à 50% en Suisse alémanique. Les sondeurs haussent un demi-parallèle avec l'initiative pour la 13e rente AVS, mais ils se gardent bien de donner une tendance pour la votation du 9 juin. Le oui populaire pourrait se maintenir, mais le problème majeur serait alors la majorité des cantons. L'initiative du centre pour un frein au coût de la santé vire elle aussi en tête, mais avec très peu d'avance, 52% de oui, 41% de non et 7% d'indécis, avec une formation de l'opinion encore faiblement avancée. La perspective n'est pas positive, selon GFS Bern. Si elle suit le parcours habituel, l'initiative sera rejetée, se doutant que le oui n'est pas à 50% en Suisse alémanique. La majorité des cantons paraît inatteignable.
C'était l'analyse de Serge Hubin.
Soufflez dans le ballon, s'il vous plaît.
Ce qui se fait au contrôle routier pourrait se généraliser dans les hôpitaux, notamment en soins intensifs. Non pas pour mesurer l'alcoolémie, mais pour pouvoir suivre en temps réel l'état de santé des patients et contrôler le taux de certains médicaments. Avec le soutien du Fonds National Suisse, des scientifiques balois ont développé un sac spécial qui suffit pour prélever l'air expiré par des personnes hospitalisées et les analyser. Les pressions politiques sur la presse augmentent dans le monde, alors même que la moitié de la planète vote cette année. C'est l'alerte lancée par Reporters sans frontières dans son classement 2024 publié aujourd'hui. La Norvège reste en tête de ce 22e classement de la liberté de la presse, tandis que l'Érythrée arrive en dernière position, 108e, après la Corée du Nord les 2 années précédentes. La Suisse s'en sort bien en occupant la 9e place. Il y a 175 ans, jour pour jour, naissait la pionnière allemande de l'automobile, Bertha Benz. C'était le 3 mai 1849. Grâce à son engagement, elle a créé les conditions nécessaires à l'invention de la voiture à moteur Benz qu'on doit à son époux, Carl Benz. Elle fut la première personne à effectuer un long trajet en voiture. C'était le 5 août 1888. Elle parcourut avec ses deux fils 106 km de Meinheim à Porfzheim à bord de la voiture à trois roues Benz. Elle est décédée le 5 mai 1944.
Eden Golan, jeune chanteuse israélienne de 20 ans, va représenter son pays pour la prochaine édition de l'Eurovision en Suède.
Les regards se tournent vers elle alors que les appels à exclure Israël de la compétition se multiplient. La présence à ce télécrochet européen fait polémique. Les organisateurs du concours n'avaient d'ailleurs pas validé sa première chanson, Pluie d'octobre, largement perçue comme une référence aux victimes de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, la trouvant trop chargée politiquement. Eden Golan représentera donc son pays avec une nouvelle version de la chanson intitulée Ouragan. On passe au sport. Le Blonay Basket aura certainement avantage ce week-end lors du Final Tour de la NLB féminine. Les Vaudoises disputeront les finales du championnat à domicile dans leur salle de Baïse. Elles seront opposées demain à Sion en demi, après avoir éliminé Arlensheim en quart il y a 2 semaines. Il s'agira d'un match simple, sans duel retour. Il faudra donc être performante le jour J pour les joueuses du coach Nadir Moussaoui.
Déjà samedi, c'est vraiment la forme du jour. Autant physiquement que mentalement, un petit peu tactiquement, mais je pense que la tactique, elle peut faire la différence sur un match serré. Mais le fait d'être bien devant ou un petit peu derrière, c'est vraiment la forme du jour. Aussi gérer le stress, gérer un peu les émotions, parce qu'il y a beaucoup plus d'émotions dans un Final Four, dans une demi-finale. C'est des matchs un peu différents parce qu'il n'y a pas de lendemain. Alors que tout le reste de la saison, même les quarts de finale, si vous avez un mauvais match, vous pouvez vous rattraper au match retour. Là, il faut être en forme samedi à 18h et puis il n'y a pas de lendemain. Donc c'est un peu ça la différence, mais il n'y a pas de grosse préparation différente tactiquement contre Sion.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Le coup d'envoi de la demi-finale entre Blonay et Sion sera donné demain à 18h. En cas de victoire, les Vaudoises seraient qualifiées pour la finale de dimanche pour y affronter l'équipe vainqueur du duel Winterthur-Villars-sur-Glâne.
Après le Tour de Romandie, les routes de la région seront à nouveau empruntées par les cyclistes du Tour du Pays de Vaud à la fin du mois.
Le 25 mai, la troisième étape de l'épreuve emmènera le peloton d'Olon jusqu'à Villars au terme d'un parcours de 87 km agrémenté par 1300 mètres de dénivelé positif et de 2 boucles à travers les Chablais valaisans et vaudois. La simple tenue du Tour du Pays de Vaud cette année représente une victoire en soi pour les organisateurs. L'an dernier, la manifestation avait dû être annulée en cause un manque de moyens financiers ainsi que de places de logement pour les athlètes. Cette année, tout fonctionne, mais l'avenir du Tour du Pays de Vaud n'est pas encore totalement assuré. Écoutez son directeur général Alain Witz au micro de Thierry Nicolet.
Je pense que si, comme on l'a entendu Madame Christelle Luzier, si l'État comprend que si on continue à nous demander de faire des choses incroyables, comme par exemple la sécurité, comme avoir une ambulance, c'est 12 000 francs une ambulance pour 4 jours. C'est énorme. On a un budget de 200 000. On a pratiquement déjà 50 000 balles qui sont investies dans la sécurité. Donc on sait qu'on a besoin de sécurité, mais ça a changé du jour au lendemain. On n'était pas prévenu. Donc s'il n'y a pas un peu plus d'aide, ce sera compliqué. Parce que chaque année, on reporte. Mais en tout cas, pour cette année, c'est bon. L'année prochaine, les étapes sont signées. Il faut voir ça avec le sourire.
Le Tour du Pays de Vaud débutera le jeudi 23 mai par un contre-la-montre à Gaulion et se terminera le dimanche suivant à Pomy. 17 sélections nationales seront présentes sur le bitume du canton, en plus de 3 équipes invitées.
L'actu en continu, radiochablais.ca. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Du Chablais.
Entre vous et nous.
Avec Cyril.
Bonjour et bienvenue entre vous et nous tous les vendredis à midi et demi. Les bons conseils de nos experts de la région. Aujourd'hui, nos experts Logipro SARL à Val-d'Illier, Guillaume Boisdin. Bonjour.
Bonjour Cyril.
Alors, on le rappelle, expert immobilier avec brevet fédéral. De quoi on parle aujourd'hui?
On va parler d'une petite révolution qui s'est déroulée sur Genève au sujet de l'immobilier avec un magnifique consensus comme on sait si bien le faire. Alors, je trouvais que c'était l'occasion d'en parler.
Eh bien, pour une fois que c'est pas une gaine ferraille. Avec plaisir. Et je sais de quoi je parle. Ivano Vresson, bonjour, comment ça va Ivano?
Mais merci, ça va très bien.
On rappelle responsable de la Raiffeisen ici à Monté. Ivano, petite question que je vous ai posée l'autre jour. J'ai dit, mais dis donc, la Banque Nationale Suisse, est-ce qu'il n'irait pas à contre-courant des autres banques nationales? C'est ça qu'on va aborder.
Exactement, c'est une question très pertinente.
Ah bah je vous remercie, pour une fois je me sens moins con. Ça sera en deuxième partie. Entre vous et nous, c'est parti justement. Bon, Guillaume Boisdin, alors, cet accord historique à Genève, expliquez-nous.
Eh bien, il s'agit de la rénovation énergétique du parc bâti, qui concerne toute la Suisse, hein, bien sûr, la fameuse loi sur l'énergie, on va encore en parler. Mais c'est vrai que là, c'était l'occasion de parler de cet accord qui a été qualifié d'historique par les médias, puisque ce sont pas moins que les associations patronales, les syndicats, les milieux écologiques, les milieux immobiliers qui ont trouvé un accord, qui ont fait un réel consensus et qui se sont dit, voilà, on n'aura pas chacun tous ce qu'on veut, mais autant avoir un petit peu chacun que rien du tout, personne.
Et puis de se battre et puis de jamais arriver à trouver une solution.
Donc c'est quand même un petit peu à l'image de la Suisse, le consensus, et puis c'est prendre un peu sur soi pour continuer d'avancer. En plus, ça concerne entre guillemets la planète, le climat, donc c'est bien.
C'est une belle évolution. Comment ça s'est passé alors? Comment ça a pu arriver, cette belle chose?
Alors, comme... toutes et tous devraient le savoir, si vous n'êtes pas au courant, je vous le rappelle, nous avons voté la loi fédérale sur l'énergie il y a déjà quelques années. En les trois grandes lignes, hein, donc l'objectif, un des premiers objectifs temporels de cette loi, c'est 2050, donc ça arrive très vite. Hein.
Ouais.
Et les trois grandes lignes, c'est un, baisser la consommation énergétique du pays, hein, global. Deux, augmenter l'efficacité énergétique du pays aussi. Et puis trois, promouvoir les énergies renouvelables. Donc on a déjà fait beaucoup d'émissions là-dessus. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails, me répéter. Je laisserai nos auditeurs aller chercher les différents podcasts qui sont stockés sur le magnifique site de Radio Chablais, je précise. Mais en gros, le parc immobilier a clairement une part prépondérante de la consommation énergétique suisse.
Ouais.
Et puis ces fameuses passoire thermique, on en a déjà tellement parlé. Et donc, on est un peu loin du Chablais, mais on est à l'autre bout du lac, au lac de Genève.
Oui, mais ça peut justement donner un exemple pour toutes les régions. Après, je vous poserai d'ailleurs cette question.
Voilà. Eh bien, en décembre 2019, le Conseil d'État genevois quand même déclare l'urgence climatique. C'était quand même pas rien. D'autres ont emboîté le pas depuis, mais voilà, ils ont quand même acté, le Conseil d'État, décembre 2019. Il y a une urgence climatique, il faut agir. Et puis, dans les objectifs du Conseil d'État pour le canton de Genève, en plus des objectifs de la loi fédérale, c'était 2030. Donc 2030, là, on y est très très vite.
Ouais, c'est demain.
C'était baisse, donc 2019, hein, ça date un peu, mais 2030, baisser de 60% les émissions de CO2 pour le canton de Genève. C'est quand même très ambitieux.
En 11 ans, ouais.
Et donc, l'accord qui a été trouvé, disons que c'est, si vous voulez, ça porte sur l'ensemble du parc bâti, hormis, il y a toujours une exception, à l'exception des bâtiments publics, des bâtiments de l'État qui ont encore une loi séparée. Mais c'est quand même, rien que pour vous dire les chiffres, on sait que le canton de Genève est très bâti, on sait que les loyers sont les plus ou parmi les plus élevés de Suisse. Hein, c'est une région que vous aimez bien, Cyril.
On pratique.
Voilà, le parc de bâtiments publics à Genève, c'est 1480 de bâtiments, pour 1 865 000 mètres carrés. Déjà, j'aimerais bien avoir à gérer ce portefeuille immobilier, je vous le dis tout de suite, si à Genève, ils m'entendent, si vous cherchez un gestionnaire, vous pouvez m'appeler.
Je prends.
Mais donc voilà, le but, hein, à Genève, comme pour ailleurs en Suisse, par rapport à la loi fédérale, et puis donc maintenant à la loi cantonale pour Genève, c'est bien sûr rénover en priorité les biens immobiliers qui sont les plus gourmands en énergie. Donc on en a déjà parlé dans d'autres émissions, on fait un audit. En général, c'est les gros bateaux, hein, qui consomment le plus de mazout, on connaît. Donc les gros immeubles sont très énergivores. Et puis dans ces gros immeubles, lesquels sont récents, lesquels sont anciens, on avait déjà parlé ensemble, hein. De mémoire, c'était un immeuble qui est construit avant 1986, consomme le triple ou le quadruple d'un immeuble moderne, puisque bien entendu à l'époque...
Parce qu'il y a la déperdition énergétique.
Voilà, alors j'avais une fois demandé à un collègue architecte à la retraite, mais pourquoi, mon Dieu, on isolait si peu les bâtiments à l'époque? Il m'avait répondu, mais mon pauvre ami, retourne voir combien ça coûtait un litre de mazout à l'époque, et puis c'était gratuit.
On ne se rendait pas compte.
Alors on n'avait pas besoin d'isoler, c'était gratuit, on chauffait gratuit, donc maintenant, on chauffe plus gratuit. On s'est rendu compte que c'était pas bon pour la planète. Et puis donc, rénover son bien en énergie, on a déjà à Genève maintenant 3 ans supplémentaires pour se mettre aux normes. Donc on voit que le temps passe et puis que c'est des dossiers très longs. Il faut mettre à l'enquête, ensuite il faut faire le chantier, etc. Demander subi. Et puis la grande nouvelle aussi, c'est que pour financer ces rénovations, l'État va mettre la main à la poche et pas qu'un peu. C'est-à-dire que à l'origine, après la votation de l'urgence climatique dans l'État de Genève, l'État avait dit ok, nous on va aider à payer à hauteur de 200 millions on va mettre 200 millions sur la table, 200 millions de francs, pour aider les propriétaires privés, publics, privés institutionnels à rénover leurs immeubles. Donc ce montant, il a été plus que doublé. On est passé maintenant à 500 millions. Donc l'État de Genève met un demi-milliard de francs sur la table. On a la peine à se rendre compte de ce que ça représente pour justement rénover le parc bâti. Et 70% de cette enveloppe, donc 350 millions pour faire les maths, c'est destiné aux propriétaires privés.
Ça incite vraiment tout le monde.
Voilà, donc vraiment maximum d'incitation. Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans les émissions qu'on a animées autour de ces thèmes, c'est profiter de ces incitations, profiter de ces aides. Aujourd'hui, on vous aide encore à le faire. Peut-être que demain, on va vous obliger à le faire.
Mais est-ce que c'est ça qui a permis cet accord, justement ? Est-ce que c'est ces incitations qui ont permis que les gens se mettent autour de la table ? Ou alors est-ce que c'est les gens qui sont mis autour de la table qui ont permis ces incitations et ces montants ?
Ça, c'est une bonne question. J'ai envie de dire qu'il y a... Un facteur qui compte énormément, c'est le temps qui passe. On s'est engagé sur des objectifs et puis on se rend bien compte maintenant, au bout de 3-4 ans, que on n'avance pas, on en a déjà parlé. Le taux de rénovation est toujours trop faible. Et puis, on a, je pense aussi, affaire à des femmes et des hommes qui sont avisés et puis qui se sont dit, on va tous y mettre d'une autre. Vous rendez compte que l'ASLOCA et la Chambre immobilière se sont mis d'accord. Enfin, rien que ça, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment pour dire, même sur des sujets aussi touchy que le climat, en général, la chambre immobilière et l'ASLOCA,
c'est du fight.
Voilà, c'est comme Titi et Rominé, c'est toujours... pour une fois, ils sont d'accord. Et du coup, c'est vrai qu'on a 350 millions de fonds cantonaux qui sont destinés à la rénovation des bâtiments privés, à quoi viennent encore s'ajouter les subsides fédérales. Donc c'est vraiment très important. Ce qui est très important aussi pour les locataires, c'est qu'ils ont eu leur mot à dire, parce que c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre de l'immobilier en Suisse. Locataires, souvent, ils n'ont pas grand-chose à dire. L'ASLOCA a fait des concessions, mais elle a quand même tenu bon. Il sera impossible à un propriétaire d'augmenter les loyers si, au cours de sa rénovation, il a bénéficié de subsides. C'est bien.
Très intéressant.
Ce qui est normal aussi.
Parce que les loyers augmentent pour la valorisation du bien en général. Que là, l'avantage, c'est qu'au moins les personnes qui habitent là savent qu'elles peuvent continuer.
Oui, puis je pense qu'il y a un statu quo. On sait que les locataires, en général, mais surtout à Genève, ils ont une pénurie de logements disponibles. Donc, ils ont énormément de peine à trouver à se loger. Les loyers sont extrêmement hauts. Donc, c'est vraiment des conditions de location qui sont très compliquées. Donc, c'est bien qu'ils aient droit au chapitre.
Il reste une minute, à peu près 1 minute 30.
Pour conclure, je pense que ce qui est très intéressant, c'est déjà, on continue de faire des efforts pour notre planète, pour notre climat, pour la performance du parc immobilier. On se veut un pays moderne, on se veut un pays pionnier. Donc c'est génial de se dire que non seulement l'État fédéral, mais aussi les cantons se bougent pour aller jusqu'au bout. C'est pas juste des grandes idées, des slogans. On va au bout des choses. L'État de Genève casse la tirelire, mais un demi milliard sur la table. Et puis ce que je trouvais le plus beau, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'était accord historique. Puis un consensus où on a mis autour de la table des gens qui parfois se tapent dessus à longueur d'année, puis là
on a trouvé des solutions.
Puis ça n'a pas été un accord youpi, tout le monde a dû faire des concessions, donc c'est ça qui est génial.
Donc maintenant l'espoir, ce serait que les autres cantons puissent faire la même chose.
Vous m'avez compris.
On verra. Merci Guillaume Boisdin.
Je vous en prie.
Logipro SARL à Valdivia, on le rappelle. Petite pause musicale, on se retrouve avec Yvan Bresson pour parler de la Banque Nationale Suisse.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Vous et nous.
Avec Cyril. Deuxième partie de votre émission de conseils de découverte tous les vendredis entre 12h30 et 13h. On a parlé d'un accord historique à Genève dans le monde de l'immobilier avec Guillaume Boisdin tout à l'heure. Avec Ivano Bressan, on va essayer de comprendre pourquoi la Banque Nationale Suisse semble être complètement à contre-courant des autres banques nationales. Expliquez-nous ça.
Alors en effet, Cyril, elle a baissé ses taux d'intérêt avant les autres banques centrales, notamment les principales, la Fed et la Banque Centrale Européenne, la Fed étant celle américaine. Il est important pour savoir comment agit la BNS de rappeler quelques notions, et notamment le rôle de la BNS. Principalement, l'objectif numéro un, c'est de lutter contre l'inflation. Et elle s'est fixée une limite à 2%, qui est également la limite que les autres banques centrales se sont fixées pour limiter cette hausse des prix. C'est peut-être important de savoir aussi de quoi on parle. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur une définition assez brève de l'inflation. En Suisse, et lorsqu'on compare des choses, il est difficile aussi de comparer l'inflation de la Suisse avec d'autres pays, puisque chacun y va de son indice, et cet indice est composé de différentes manières. On le verra en Suisse, donc c'est cet indice des prix à la consommation qui est abrégé sous forme de IPC, on l'entend souvent, qui est calculé chaque mois par l'Office fédéral de la statistique, et il est basé sur un panier qu'on appelle communément le panier de la ménagère, mais qui ne comprend pas certaines dépenses, par exemple les primes d'assurance maladie, les impôts, les cotisations aux assurances sociales ne sont pas inclus dans cet indice. Comment cette inflation apparaît-elle ? Elle apparaît lorsque la chose classique, c'est lorsque la demande est supérieure à un bien produit. Lorsque la demande est très forte, cela fait grimper les prix. Il y a d'autres raisons qui sont liées à une hausse de prix. Ce sont notamment les coûts de la production ou la hausse des produits importés.
Et puis après, il y a ce qui se passe aussi, la géopolitique, l'insécurité est haute.
C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Ukraine, la guerre en Ukraine qui a provoqué donc une flambée des prix de l'énergie, et puis notamment des difficultés dans l'approvisionnement, ce qui a engendré des hausses de coûts. Mais une des grandes causes qui a été à la base de la hausse des prix ces dernières années au niveau mondial, ça a été les politiques monétaires qui ont été menées par les banques centrales. En quelques mois, elles ont inondé le marché d'argent. Et notre ami Friedman, qui doit se retourner de sa tombe, fameux économiste, a toujours dit que lorsque l'offre de monnaie est supérieure à la demande, qui peut être mesurée par le PIB, hein, le produit intérieur brut d'un pays, lorsque cette offre de monnaie est nettement supérieure à la demande, s'ensuit une inflation. Et parfois, ça peut être catastrophique.
Parce qu'il faut rappeler que les pays ont injecté pour stimuler, entre guillemets, la consommation et le marché, puis pour aider aussi. Mais le problème, c'est que sur du moyen long terme, ça se retourne ensuite.
Voilà. Alors après, la BNS est un bon exemple de cette injection d'argent qu'elle a fait de différentes manières. Elle a notamment acheté beaucoup de devises. Là, c'était pour sauver juguler la hausse du franc suisse. Mais il faut savoir aussi que cette inflation a de nombreux dangers et on a la mémoire courte parce que on a été habitué pendant des années à ne plus entendre parler d'inflation. Mais je peux peut-être paraphraser la déclaration d'un gouverneur de la Bundesbank à l'époque lorsque on avait vraiment un phénomène hyper violent d'inflation dans les années 80, début 90. Et il a dit, lorsque le génie de l'inflation s'est échappé de la bouteille, il est très difficile de l'y faire entrer à nouveau.
Ouais.
On comprend bien l'image. Hein,
fuite en avant.
Voilà, c'est lorsque le phénomène s'enclenche, c'est vraiment très très difficile. Il peut y avoir un cycle inflationniste qui s'enclenche avec ce qu'on appelle la spirale 10 coûts salaires. Hein, lorsque les coûts augmentent, le salarié va réclamer auprès de son employeur une hausse de salaire pour faire face à cette hausse de coûts. Suite à cette hausse de salaire, il aura un pouvoir d'achat qui est plus important, qui va entraîner une dépense supplémentaire, qui va augmenter, donc la demande augmentant va augmenter par ce biais-là la hausse des prix, et c'est l'engrenage infernal qui peut être la cause de beaucoup de maux. Une des conséquences, c'est qu'il faudrait provoquer une forte récession, très très forte, ce qui impliquerait une hausse du taux de chômage pour la casser, ou dans certains cas, comme l'exemple le plus flagrant, c'est le Venezuela, avec de l'inflation à 1000%, où là... c'était terrible. Il y a eu des millions de gens qui ont dû émigrer avec des conséquences.
Parce que l'argent vaut plus rien.
L'argent vaut plus rien. Ils ont, par exemple, rajouté des zéros comme lors de la Deuxième Guerre mondiale sur les Deutschmark. Un billet de 100, imaginez-vous, un billet de 100, une année après, vous rajoutez un zéro, c'est 1000. Votre salaire qui est de 100 une année après, il est de 1000, mais le prix du café est passé de 3 francs 50 à 35 francs, voire même plus. Donc c'est des choses qu'on a vraiment de la peine à s'imaginer, hein, cette inflation. Et ce qui est intéressant, c'est que Raiffeisen a établi un sondage pour connaître un peu la perception de la population suisse par rapport à cette inflation. Et il y a des questions qui ont été posées. Comment ressent-elle l'inflation? Que sait-elle de l'inflation? Et c'est intéressant de voir que sur certains points, elle était très, très au fait, mais dans d'autres, ben voilà, il y a des notions.
Les gens ne maîtrisent pas nécessairement tous les termes et les techniques.
Voilà, ou la perception de l'inflation par rapport au poste de dépense, la réponse la plus. Celle qui est ressortie en première, c'était les primes d'assurance maladie. Même si ce n'était pas une cause pour eux de l'inflation, parce qu'on entend tellement parler de hausse de. Ça n'arrête pas chaque année. Et pendant 10 ans, il n'y a pas eu d'inflation, mais on a toujours parlé de hausse des primes d'assurance maladie. Ouais. Donc, ils n'ont pas associé cette hausse des primes d'assurance maladie à l'inflation. Mais pour eux, bien sûr, ça reste une préoccupation qui est majeure. Si on parle de comment la population a pu estimer l'évolution des prix, si je vous pose la question, Cyril, qu'est-ce que vous pensez de l'inflation qu'il y a eu l'année passée, pour citer un chiffre, vous avez une idée?
L'année passée,
oui.
Au niveau suisse?
Oui.
Je me souviens plus des chiffres exacts, moi j'avais 1,8, mais...
Pas loin, vous êtes mieux que la population suisse, et c'était 2,1, et la population suisse a estimé à 2,6, donc elle a été beaucoup plus négative par rapport à cette perception de l'inflation. Et puis, une autre question intéressante, si on vous pose la question, par exemple, d'un panier de 100 francs en 1990, quelle valeur aurait ce panier maintenant, selon vous, donc 34 ans après?
Alors, un panier, on imagine qu'un panier était à 100 balles.
Voilà.
Maintenant, la valeur.
Voilà.
Je crois que ça n'a pas triplé, non? Je dis des bêtises, là.
Alors, la population suisse était beaucoup perspicace que vous, parce qu'elle a dit 152 francs.
OK.
Donc, 50% de plus, et la réalité, c'était 147. Donc, très proche.
Et puis moi, j'étais loin.
Que, entre guillemets, 50%.
OK.
Et 300, ça veut dire que les prix auraient triplé. Imaginer le prix de l'immobilier alors qu'ils ont bien augmenté s'ils avaient également pris cette proportion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le phénomène inverse, qui est tout aussi négatif que l'inflation, c'est la déflation. Et là, on a vraiment la mémoire courte. Hein. Lorsqu'on a posé la question aux gens, les gens ne se rappellent pas qu'en 2020, par exemple, les prix ont baissé.
OK.
Les prix ont baissé. Il y avait des périodes... 2012, 2013, 2015, 2016, où les prix ont baissé.
Ce serait très bien qu'on reparte en inflation de 3 ans, là.
Alors, il nous reste 2 minutes, Ivano, par contre.
Oui, alors, pour répondre à cette question, je l'ai dit tout à l'heure, donc le rôle de la BNS est de lutter contre l'inflation, et les taux de l'inflation ayant baissé régulièrement depuis décembre, ils ont passé de 1,7, 1,3, 1,2, 1,1 jusqu'en mars. Et c'est là que la BNS a pris sa décision de baisser le taux de 1,75 à 1,5. C'est la conséquence de cette baisse de l'inflation qui a été observée sur plusieurs mois. Donc il faut savoir aussi que c'est sur le long terme que la BNS lutte contre cette inflation. Il ne suffit pas qu'elle baisse d'un mois... en dessous de 2% pour se dire voilà, tout est en ordre parce qu'elle peut repartir. La preuve, c'est qu'en avril, elle est repartie. On est à 1,7.
Okay.
Donc on s'approche des... Et ce qui n'est pas le cas des autres pays, Banque Centrale Européenne n'a pas bougé ses taux qui sont toujours très élevés à 4%. Hein. Nous, on est à 1,5-4% Banque Centrale Européenne. Les Américains, ils sont à 5, entre 5-5,5. L'économie repart bien aux États-Unis. Par contre, les prix n'ont pas suffisamment baissé. Hein. On est toujours à 3,7 d'inflation, d'après les derniers chiffres. Donc, nettement supérieur.
C'est beaucoup trop.
C'est pour ça qu'en Europe et aux États-Unis, on n'a pas baissé les taux. On n'est pas prêt de le faire ces prochains temps. Contrairement à la Suisse, où on parle... Les marchés ont déjà tenu compte d'une baisse de 0,5 de plus sur... lorsque c'est d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'au niveau des taux long terme, les marchés ont déjà tenu compte de ça. Au niveau des taux hypothécaires, ouais. Et au niveau des taux des crédits, il faut peut-être pas s'attendre à une baisse de ces taux-là ces prochains temps. Même si la BNS va effectivement baisser de 1,5 à 1,25 ou de 1,25 à 1% ces prochains mois leur taux.
Ben, on pourrait continuer encore longtemps, j'avais encore d'autres questions, mais je suis navré, Ivano. On arrive au bout du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup d'avoir apporté ces quelques précisions. On rappelle qu'on retrouve cet entretien sur radiochablais.ch dès cet après-midi. Merci beaucoup, Ivano.
Je vous en prie.
Guillaume Boisdin, on rappelle qu'il était avec nous en première partie d'émission pour parler d'un accord historique dans le monde de l'immobilier du côté de Genève. Peut-être un exemple qu'on espère essaimer, qu'on voit essaimer dans d'autres cantons. Merci à vous.
Merci.
Bon appétit.
Merci. Merci.
Bon week-end. Bye bye.
Au revoir, Raymond.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Tiens. La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre.
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la Minute Hawaïenne, une spéciale dédicace à tous les Thibauts. Thibaut, 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 Thibaut. C'était une spéciale dédicace à tous les Thibauts, des Thibauts, toi Thibaut Doudou.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre.
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Radio Chablais, programme de nuit ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui.
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Demain, samedi 4 mai, Oniria Festival continue à faire bouger, monter. On en parle avec Gaël Schwendi, l'organisateur de ce festival. Bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on va découvrir demain? Ça va de nouveau mettre le feu dans la patinoire.
Exactement. On avait une première soirée la semaine passée qui était vraiment incroyable. On était quasiment sold out avec les années 90-2000. Et cette semaine, on revient avec des sons plutôt actuels. Donc, il y a vraiment un petit peu tout, de l'électro, de la pop, du hip-hop, un petit peu tous les styles actuels.
Alors, quelles sont les stars de la soirée, les têtes d'affiche demain?
Alors, on reçoit deux artistes qui sont NASA et Keblack, qui sont des artistes très actuels, ils viennent de sortir d'ailleurs chacun des titres qui sont classés dans le top Spotify. Donc, ils sont vraiment très, très appréciés en ce moment.
Alors, justement, demain, vous l'avez dit, électro-pop, latino, hip-hop et les deux showcases de NASA et Keblack. Une grande et belle soirée. Le but, c'est de faire la fête, c'est de s'amuser. Oniria, c'est des très, très jolis moments à la patinoire de montée.
Oui, on a installé en plus un écran de 10 mètres de haut. Donc, c'est la première fois qu'on le fait. On a dû rajouter même de l'électricité. De l'énergie de ma patinoire parce qu'il n'avait pas assez. Donc on a vraiment fait cette année un show qui est vraiment assez dingue.
Alors un show qui s'annonce justement assez dingue. Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Et comment on prend les billets?
Alors les portes ouvrent à 22h. On a l'autorisation spéciale de fermer jusqu'à 4h du matin. Donc arrêt de la musique à 3h30. Donc on a vraiment toute la soirée devant nous. Et puis les billets sont disponibles sur le site du festival. Donc c'est oniriafestival.com ou bien directement sur place.
Alors, oniriafestival.com ou sur place. Gaël Schwendi, est-ce qu'on a tout dit pour l'Oniria? Demain, on rappelle, deuxième étape montézanne après samedi passé. Demain, à 22h à la patinoire de Montée. Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire?
Je crois qu'on a tout dit. On va vraiment passer un super moment. On se réjouit. On a vraiment fait une super première soirée. Et puis, on va réitérer ça comme il se doit.
Avec grand plaisir. Oniriafestival.com, c'est demain dès 22h à la patinoire de Montée. Plein succès. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci beaucoup.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler. Que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le mag, c'est le Chablais dans toute sa splendeur. Son actualité du lundi au vendredi après 17h. Et on commence aujourd'hui avec le cycle d'orientation de Trois-Torrents qui fête ses 50 ans. Ouvert en 74, aujourd'hui, le CO de Trois-Torrents, c'est plus de 200 élèves et 25 enseignants. Et bien pour fêter ses 50 ans, l'école vous propose d'aller vous trémousser. La fête débute ce soir 20h avec le bal CO en couleur et se terminera demain samedi avec des ateliers prévus dans les salles du bâtiment scolaire. À l'occasion de ce jubilé, Guillaume Abbey a interviewé le directeur du cycle d'orientation de Trois-Torrents, Franck Berru.
Franck Berru, bonsoir.
Bonsoir.
On fête les 50 ans aujourd'hui de ce cycle d'orientation. Les célébrations vont se dérouler dès aujourd'hui le 3 mai et demain le 4 mai. Juste un petit rappel, peut-être pour les moins jeunes d'entre nous, avant 1974, comment ça se passait?
Alors avant 1974, ouais, ça nous rajeunit pas vraiment. Les cycles d'orientation ont commencé à exister en 1974 dans le canton. Sinon avant, il y avait les écoles ménagères pour les filles. Et puis les classes de promotion pour les garçons, une fois qu'ils terminaient l'école primaire, ils partaient sur ces classes-là. Et dès 1974, les signes d'orientation se sont progressivement installés dans le canton et à Trois-Torrents en 1974.
Vous-même, vous avez fréquenté ce cycle dans ces premières dizaines d'années. Maintenant, vous en êtes le directeur. Qu'est-ce qui a changé depuis la période où vous l'avez fréquenté, vous, ce cycle? Comment il a évolué?
Je dirais peut-être, pour résumer un peu les choses, ben voilà, progressivement, les garçons et les filles ont eu les mêmes programmes. Si on pense aux cours de gym, on pense aux cours d'économie familiale, aux travaux manuels et même à d'autres cours. Ensuite, on a un système qui permet de mieux tenir compte des besoins de chaque élève, de son niveau, avec des cours à niveau maintenant depuis 1987, sauf erreur de ma part. Et puis, je pense que c'est une école maintenant qui tient mieux justement compte des besoins particuliers des élèves que par le passé, où peut-être on avait un enseignant, une classe, et avec moins d'hétérogénéité, de différence.
C'est aussi pour ça qu'on célèbre les 50 ans d'un CO, c'est pour se rappeler d'où on vient.
Oui, ça permet de se dire, ben voilà, le chemin qui a été parcouru, et puis bien sûr le chemin qu'il y a encore à parcourir, parce que finalement, voilà, l'école, c'est comme la société, elle évolue vite, très très vite. Je pense que ça s'accélère passablement, d'ailleurs. Enfin, les défis s'accélèrent, deviennent de plus en plus nombreux.
Vous en êtes le directeur depuis 2013, depuis votre prise de fonction ici à la tête de l'établissement. Quels ont été les plus gros défis que vous avez dû relever, vous, depuis que vous en êtes le directeur?
Peut-être le plus gros défi, de voir des élèves dont les profils sont de plus en plus hétérogènes. Ça veut dire que, voilà, dans son travail, il doit tenir compte de ses différences, respecter les personnalités, voilà, qu'il a dans sa classe. Et puis, peut-être un autre aussi, qui est un enjeu, surtout à l'adolescence, mais aussi dans les petits degrés, c'est toute la question liée à l'intégration du numérique, la gestion des réseaux par nos jeunes, les écrans et l'implication que ces nouvelles technologies ont sur leur apprentissage.
Pour les prochaines 50 années du CO de Trois-Torrents, quels sont les prochains défis à relever?
Le premier peut-être, mais là c'est davantage la commune qui pourrait y répondre, c'est de nouvelles infrastructures. Je pense que voilà, Trois-Torrents est devant un défi important de pouvoir accueillir ses élèves dans de meilleures conditions. Après, d'un point de vue plus pédagogique, c'est trouver un équilibre entre les besoins particuliers des élèves et le travail que les enseignants doivent faire avec eux. On a élargi le spectre. Est-ce qu'on le gardera toujours aussi ouvert? Comment est-ce qu'on peut trouver de bonnes solutions pour que le travail de l'enseignant reste possible et efficace avec nos élèves?
Les 50 ans, c'est aussi l'occasion d'essayer de faire revenir les anciens élèves qui ont fréquenté l'établissement, de faire aussi se côtoyer les différentes générations, celles qui y sont actuellement, celles qui le seront prochainement. Tout d'abord, est-ce qu'on sait le nombre d'élèves qui ont fréquenté ce cycle d'orientation depuis son ouverture en 74?
Alors, on le sait parce que y aura un atelier samedi de découverte un peu des différentes listes de classes depuis 1974. Donc, on sait qu'il y a environ 3500 élèves qui ont fréquenté le cycle d'orientation de Trois-Torrents en 50 ans. Samedi, lors de ces portes ouvertes, on risque d'avoir quelques jolies retrouvailles spontanées avec des personnes. Ouais, ça va être sympa.
On sait combien le nombre de profs aussi ont enseigné ici?
Oui, d'ailleurs, on les a invités, bien sûr. Le doyen, je crois, des enseignants qui ont fréquenté le cycle à 93 ans, il est encore en vie. C'est environ 90 personnes, 90 enseignants qui ont fréquenté le cycle.
Merci Franck Berru. Je rappelle que les célébrations des 50 ans du cycle d'orientation de Trois-Torrents démarrent ce soir à 20h avec le bal CO en couleur, avec le petit jeu de mots CO. Elles se poursuivent demain dès 10h avec des ateliers dans le cycle et les salles alentour du cycle d'orientation jusqu'à 17h. Je profite aussi pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. C'est aussi vos 50 ans aujourd'hui. Merci à vous pour cette interview et puis belle fête au pluriel du coup.
Merci beaucoup à Radio Chablais, merci.
Eh bien, très belle fête, bon anniversaire à Franck Berru.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Des rires, de la laine, du tricot et du thé. Voilà ce que propose chaque mercredi la bibliothèque de Port-Valais. Une animation gratuite, intergénérationnelle. C'est un long mot ça, hein. 20 lettres, j'ai compté. Ils accueillent tout le monde afin de passer un bon moment, Léa Journeau, et aller faire un petit tour.
Bonjour, je suis contente que vous soyez là. Oui,
nous sommes à la bibliothèque de Port-Valais où se déroulent des ateliers un peu particuliers presque tous les mercredis. Mais on va laisser Muriel Gray, bibliothécaire, nous expliquer le concept.
En fait, c'est pas un atelier, c'est une rencontre intergénérationnelle pour faire du tricot, du crochet. Qu'on sache tricoter ou qu'on sache pas crocheter ou tricoter, ça permet d'une rencontre et d'apprendre, ou simplement de le faire en bonne compagnie.
Ici se côtoient de nombreuses femmes, elles étaient 15, cette fois-ci jeunes et moins jeunes, sachant tricoter ou non, parce que le